Bonjour et bienvenue dans cette émission du 21 décembre 2024 de cette Web TV. Je remercie mes abonnés de leur patience. J'espérais pouvoir mettre cet épisode en ligne il y a quelques jours déjà. Et puis, il y a eu pas mal de podcasts et d'émissions auxquelles j'ai participé, ce qui m'a pris pas mal de temps. Mais nous allons nous intéresser aujourd'hui dans la série des fenêtres du calendrier de l'Avent des Bonnes Nouvelles à la question, au fond, comme Capri, est-ce que Macron se serait fini? Nous avons tous en tête ces images hallucinantes d'un chef de l'État se comportant de manière démente. Il n'y a pas d'autre manière de le décrire à Mayotte. Il s'y est rendu suite au terrible typhon qui a laissé l'île dans un état de désolation prononcé. Mais le chef de l'État s'y est surtout révélé tel qu'en lui-même. Franchement délirant, d'une manière qu'il est juste impossible de ne pas voir, même à ceux qui font tout pour garder la tête dans le sac. Il a perdu ses nerfs, se mettant à engueuler la foule, en disant « mais sans la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde », alors qu'on parle de gens qui ont tout perdu, qui vivent dans un état de précarité à l'année longue, et qui en l'occurrence ne disposent pas de l'aide humanitaire nécessaire pour une survie à très court terme. Enfin, on connaît le chef de l'État, il ramène tout à sa personne, le réel n'a plus grande prise sur lui. Sans être capable de donner la moindre attention empathique à ce qui était dit, c'était juste du one-man show comme nous en avons l'habitude. Et Alexis Poulain résume l'opération en une phrase qui fait mouche. Qui fait 10 heures d'avion pour aller insulter des gens qui ont tout perdu? Eh bien, nous avons tous la réponse à l'esprit, c'est Emmanuel Macron. Et oui, parce que les gens ne lui ont pas mangé dans la main, comme le souligne le cercle Aristote. Lui voulait juste venir faire des photos et de belles images pour les médias, et les gens qui ont tout perdu ont osé le critiquer, donc l'adolescent caractériel a piqué sa crise. La souffrance des gens est totalement secondaire, et il y avait bien sûr un racisme et une violence coloniale hallucinantes dans cette séquence. Alors, au passage, Zelensky, lui, avait récupéré 35 milliards d'euros pour, soi-disant, livrer la guerre à la Russie, mais surtout recycler cet argent dans tout un ensemble d'opérations mafieuses. L'Ukraine est d'ailleurs devenue la plaque tournante du trafic d'armes actuellement à l'échelle du monde. Mais donc, pour les Français de Mayotte, François Bayrou, Premier ministre à sa grande satisfaction, mais à celle d'à peu près personne d'autre, lui a lancé un appel aux dons, des fois que dans vos fonds de tiroir, il resterait quelques piécettes que le fisc et l'État n'auraient pas encore saisies et qui pourraient venir en aide à ces malheureux habitants de l'océan Indien. Alors en plus, bah évidemment, Macron, dans l'inversion accusatoire et le « en même temps », s'est permis d'engueuler les gens, se disant énervé de les voir divisés. Lui, le grand diviseur, qui disait quand même qu'il fallait emmerder les non-vaccinés. Le docteur à l'Ouest exprime son opinion que la place de ce type est dans une chambre capitonnée en psychiatrie, ce avec quoi je serais assez d'accord à cela près que j'ai lutté toute ma vie contre les chambres fermées et l'enfermement des malades psychiatriques. L'immense majorité des malades psychiatriques sont des gens charmants, y compris lorsqu'ils sont décompensés, mais il y a quelques cas de pathologies folles furieuses, comme on dit. Macron en fait partie et effectivement, peut-être que pour lui, ça serait au fond une destination souhaitable. Et puis bleu, blanc, rouge donne dans l'humour en référence à un autre épisode, lui aussi assez piteux de la vie française, en disant qu'il avait eu envie de lui dire de se calmer et de boire de l'eau, mais qu'il avait eu peur d'être accusé de sexisme. Toujours est-il que ces déclarations de Macron, quand même, à nouveau, ça crève les yeux à ce degré de gravité. Donc sur les chaînes, on dit qu'elles sont indécentes, qu'il n'est pas à la hauteur. Oui, qu'en termes polis, cela est dit. Le type est dément, le type est fou furieux, le type doit être enfermé. Quelques jours plus tard, il s'est exprimé à Djibouti devant des forces armées, où il a exprimé tout l'honneur qu'il est d'être à la place auquel l'ont élevé les Français. Rappelons que selon son épouse, Brigitte Macron, quelle que soit son identité, les Français ne méritent pas Emmanuel Macron. Et effectivement, nous avons eu un droit à la scansion habituelle du moi, et c'est moi le chef, et j'ai très envie de vous emmerder jusqu'au bout. Donc, bien sûr, la conclusion, le diagnostic, que peut-on dire d'autre? C'est que c'est vraiment un sale type. Le président de la République française, aujourd'hui, est un sale type, se comporte comme un sale type. C'est un malade grave, un pervers, un psychopathe, irresponsable, qui achève de détruire et de souiller l'image de la France. Et À cela se sont ajoutées d'autres révélations qui sont passées par le quotidien Le Monde sur les facilités de langage qu'utilise le chef de l'État dans son intimité, parlant au sujet de la population noire de Mamadou, de cage aux folles en ce qui concerne Matignon sous Gabriel Attal, bon, ce qui n'est pas entièrement faux comme qualificatif, mais enfin quand même, et puis comme ça, en accumulant des expressions extraordinairement méprisantes, mais ça c'est du ton sur ton quand on connaît le personnage, donc Mamadou pour les personnes noires, Rabzouz pour désigner les personnes d'origine arabe, et puis les Tarlouzes et les Cajoufolles des cercles qu'il a coopté au sommet du pouvoir et nommé dans les différents ministères. Donc selon les révélations du Monde, Macron le soir se retranche de plus en plus à l'Élysée, avec un peu le somme et avec un boys club. Il boit du whisky, de qualité d'ailleurs, commente l'actualité et se moque du monde entier. Pour rigoler, les acolytes se nomment entre eux Petit PD ou Grande Tarlouze, tandis que le nom de code pour Matignon, je le redis une fois de plus, était la cage aux folles. Ça c'est très amusant, c'est ces mélanges qu'on a trouvé longtemps à la tête de l'Église catholique, où le clergé, on le sait par les quelques études qui ont été faites, était quand même très majoritairement homosexuel, pratiquant, mais en même temps avait des positions extrêmement homophobes vis-à-vis du monde extérieur. Et donc voilà, super ambiance, inclusive, satinée, relève avec finesse Pierre-Yves Rougeron, mais cela nous ramène effectivement à Emmanuel Macron, une certaine idée du pouvoir, mais qui par transposition est aussi le symptôme de la maladie de la France. Parce que ce type soit complètement délirant et pervers, c'est une chose, mais qu'il incarne la nation française, réélu deux fois par le peuple, dans des conditions évidemment profondément truquées, et avec l'appui de la classe médiatico-politique tout entière, bah évidemment qu'à ce moment-là, ça n'est plus son problème à lui, c'est notre problème à nous, et ce problème reflète quelque chose qui nous concerne autant qu'il le concerne lui. Donc au sujet des Mamadou, rappelons que la citation, c'est que parlant de l'encombrement dans les services d'urgence des hôpitaux qu'il détruit diligemment, il ne s'en est même pas caché, Emmanuel Macron avait estimé que le problème des urgences, c'est que c'est rempli de Mamadou. Alors heureusement, cela donne des idées intéressantes à tous les facétieux qui sévissent sur le net. On en fait des interprétations assez intéressantes, mais aussi avec des témoignages, Dieu merci, qui viennent remettre un peu les pendules à l'heure, notamment celui-ci de cette dame qui témoigne « Je reviens de 3 semaines d'hospitalisation, c'est vrai ». À l'hôpital, il y en a beaucoup, des Mamadou, des Karima, des Youssef. Ils sont médecins spécialistes, infirmiers, aides-soignants, ils m'ont sauvé du pire. » Donc voilà, on voit une fois de plus qu'un chef de l'État qui est censé incarner la grandeur, la noblesse, les aspirations de la nation, mais aussi faire preuve de respect envers toute cette mosaïque qui constitue désormais nos différents pays, et la France en l'occurrence, eh bien fait tout l'inverse. Et nous allons accorder le prix du meilleur impersonator, comme on dit en anglais, c'est-à-dire celui qui fait le sosie, qui se fait le sosie, comme il y a beaucoup de gens qui, vous savez, reproduisent les shows d'Elvis Presley dans exactement la mise en scène d'origine, avec une voix s'approchant le plus possible du king du rock and roll. Et bien Didier Maistre nous a gratiné d'une imitation d'Emmanuel Macron, dont je vous laisse savourer la pertinence et la justesse. Cela dit, si vous avez de prudes oreilles, je vous invite à couper le son pendant cet épisode, car Didier Maistre y va assez franchement, mais de manière pertinente, en effet.
Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Putain ! Vous êtes de la chance, vous êtes français ! Vous êtes français, putain ! Mamadou !
Oui, il faut rappeler bien sûr que Macron est d'une fourberie répugnante. À réitérer reprises, il est intervenu sur les chaînes de télévision qui évidemment lui sont disponibles à volonté pour venir expliquer comment oui, il fut un temps où il était dur, impétueux, rude, mais qu'il a appris à aimer mieux et avec plus d'indulgence et de bienveillance les Français. Faites-moi confiance. Je vous emmerde avec bienveillance. Bon. Alors cela dit, à ce stade, il est plus que probable que Macron ne finira pas son mandat. Et ça n'est pas un cas isolé. On sait comment les sièges de président de la République ou de premier ministre sont éjectables à l'heure actuelle. C'est la valse dans tous les différents pays. On l'a vu notamment en Grande-Bretagne. Il est également très probable que Justin Trudeau, qui a fini d'aliéner la moindre sympathie et le moindre respect quant à sa personne et son action, ne fasse pas long feu à la tête du Canada. Même chose pour Olaf Scholz en Allemagne. Et puis le fait que les informations sur ces modalités de langage plus que cavalières, injurieuses et irrespectueuses et indignes, aient fuité, est surtout une indication qu'il est en train d'être lâché par ses amis de la finance qui l'ont mis au pouvoir après des campagnes de propagande, d'intoxication et d'élimination d'opposants, de concurrents crédibles, dont bien sûr François Fillon a fait les frais. Et effectivement, alors bien sûr, l'Élysée a démenti les propos au sujet de Mamadou, mais c'est Le Monde qui a sorti l'affaire. Et vrai point d'interrogation, c'est bel et bien que ça soit Le Monde qui sorte l'information, que la politique soit un monde de perversion et de langue de pute, le commande justement des débilocraties n'est pas un scoop. Par contre, que Macron soit balancé par Le Monde, c'est-à-dire par Xavier Niel, eh bien ça n'est pas anodin, c'est une nouveauté. Et d'aucuns y voient, probablement de manière pertinente, la patte de Gabriel Attal, qui savonne la planche de plus en plus au chef de l'État, tout en se faisant passer, avec la puissance de feu des médias putassiers, comme étant une alternative pour la continuité de l'après-Macron. Enfin, je ne sais pas qui pourrait avoir envie de Gabriel Attal, sauf à reproduire la cage aux folles, mais cette fois, au sommet de l'Élysée, c'est une parole autorisée, puisqu'elle vient du président de la République lui-même. Et puis, vous savez que Nicolas Sarkozy a été définitivement condamné. Alors bien sûr, il pleurniche, il s'estime victime d'une erreur judiciaire. Mais toujours est-il qu'on peut effectivement être confiant quant au fait que le jour où Emmanuel Macron ne sera plus président, les juges ont déjà dans leur tiroir des actions judiciaires gratinées à son encontre. C'est en tout cas l'estimation de l'avocat de Nicolas Sarkozy. Alors, si on place ces différents éléments dans l'évolution du temps, bien sûr, cela reste une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que, quand même, la gravité du profil psychopathologique et de l'action nocive, destructrice du chef de l'État aujourd'hui n'échappe plus à personne. Donc cela fait des années que nous nous égosillons en ce sens, mais la confirmation est en train d'être donnée d'une manière qui n'est plus contestable. On nous ressort à l'échelle européenne à la faveur de la suppression des élections en Roumanie, puisque le résultat ne complaisait pas aux autorités de Bruxelles la thèse de l'ingérence russe. Mais voilà ce que Pierre de Gaulle en dit de manière extrêmement avisé sur le plateau de TV Liberté. Écoutons-le.
Ça me fait sourire quand on parle d'ingérence russe parce que ça arrange nos élites politiques. Surtout, ça évite le dialogue, ça évite la vraie discussion et ça évite de dire la vérité aux Français. Tous nos hommes politiques, ou la plupart, ont participé au programme Young Leaders of the World, jeunes leaders du monde, donc qui est parrainé par la CIA. C'est le cas de François Hollande, c'est le cas de Nicolas Sarkozy, c'est le cas de la plupart de nos ministres, et c'est le cas, je crois, de notre dirigeant actuel. Tout ça est vérifiable, puisque les lauréats, en fait, sont disponibles sur le site de la French American Foundation.
Donc bien sûr, ce sont tous des pions, des pantins du 4e Reich européen montés sous l'égide de l'Empire américain. Et donc bien sûr, il y a une interférence majeure, mais pas de la part de la Russie, en faveur de la culture mafieuse qui a été instaurée à Bruxelles. Et la médiatrice sortante, qui s'est opposée de longue date à Ursula von der Leyen, a décrit une fois de plus, information relayée par Politico, qui est quand même un organe de presse mainstream qui dépend également de l'État profond, donc on voit que les lignes bougent, le fait que l'Union européenne, bien sûr, a une culture mafieuse due en grande partie à sa présidente. Pendant ce temps, les autorités suisses, elles aussi marionnettes de l'État profond, essayent de faire passer un accord bilatéral entre la Suisse et l'Union européenne qui, dans les faits, signifierait la fin de la Suisse. et notamment parce que le droit fédéral serait subordonné, serait assujetti au droit européen, donc ça serait vraiment la fin de l'indépendance et de la souveraineté de la Suisse. Donc Dieu merci, une certaine résistance se fait sentir dans le pays. Pourquoi suivre un navire qui prend l'eau? Pourquoi adopter un modèle qui n'est rien d'autre que catastrophique? Et puis avec la perversité de ce gouvernement qui trahit lui aussi sa nation, vous savez qu'il y a des référendums d'initiative citoyenne en Suisse par lesquels les citoyens peuvent demander, par exemple, qu'un accord soit soumis à la votation de tout le peuple, et nos autorités sont déjà en train de songer à saucissonner les accords en 4 volets différents pour obliger les référendaires à obtenir 4 référendums et évidemment réduire d'autant le risque que la population se prononce contre, même si Dieu merci, on peut espérer que l'atavisme helvétique qui se méfie de tous les empires, fût-il européen, puisse s'exprimer à cette occasion. Par ce dont il est question, bien sûr, c'est de résister à cet Euro-Reich globalo-fasciste sous l'égide des États-Unis. Sujet des États-Unis, quand même. Le Wall Street Journal vient de sortir un article disant « Nous étions au courant du déclin mental de Joe Biden dès le premier jour de son mandat » à travers des révélations du personnel de la Maison-Blanche. Alors, c'est vraiment extraordinaire, parce que cette sénilité gravissime, irrémédiable quant à la possibilité pour lui d'exercer ses fonctions dans la pleine jouissance de ses compétences, ne trompait personne. Toutes les remarques que nous avons pu faire en ce sens ont été évidemment immédiatement cataloguées de complotistes. Et donc, tournons-nous vers Alexis Haupt et sa philosophie pour nous éclairer. Il traduit, en fait... Nous, les médias mainstream, on ment sur à peu près tout, en permanence. On taxe de complotistes ceux qui dévoilent la vérité, jusqu'au moment où on décide de dire que c'était vrai. À ce moment-là, l'ancienne théorie du complot devient la version officielle. Et nous sommes dans un jeu de dupes, dans un grand cirque burlesque, mais pas drôle. Et par exemple, en France, le fait que le très improbable François Bayrou, qui semble vivre même pas au milieu du XXe siècle, mais au XIXe siècle, n'avoir lui non plus plus l'entière jouissance de ses facultés, est en train de réunir les chefs de parti, tous plus corrompus et idiots les uns que les autres. Bref, tout ceci n'augure pas, à vrai dire, de lendemain qui chante. Alors je vous l'ai dit, Nicolas Sarkozy s'est plaint amèrement sur les réseaux sociaux d'avoir été condamné pour, évidemment, quelque chose pour lequel il n'avait rien à se reprocher. Mais je rejoins Avner Solal qui lui rétorque « Rien que pour Lisbonne, tu mérites la prison à vie ». Eh oui, ce sont des traîtres. Ce sont des traîtres au service des intérêts de l'État mafieux. Et puis, une nouveauté dans le paysage que je me permets d'aborder en fin de capsule, même si ça sera le sujet d'interrogations et sans doute de commentaires dans les mois qui viennent, est qu'il y a tout d'un coup toute une propagande qui s'agite sur les réseaux sociaux en faveur d'une possible candidature de Juan Branco en 2027. Alors vous me connaissez, je pense par hypothèse, je n'ai pas de parti pris, je suis agnostique dans les matières politiques. Toutefois, ce qui me frappe, c'est l'intensité de cette campagne. On y verrait un peu l'équivalence des campagnes de promotion en cours autour de la figure de Gabriel Attal, hein, représentant de l'État profond véreux, globalo-fasciste, version cajofole. Et donc là, on voit déferler tout un ensemble de publications autour de Juan Branco, présentées dans des poses qui, malgré tout, font assez culte de la personnalité. À droite, on se demanderait s'il s'agit du transfert d'une star du football au Real Madrid. Et puis avec « Pourquoi il pourrait être un bon président en 2027 ?» Une figure anti-système au bon moment. Lui, il est dans la défiance des politiques, dans la remise en question. Et au passage, pourquoi ne ferait-il pas équipe avec Dominique de Villepin ? Donc, entendez-moi bien, je considère Juan Branco comme quelqu'un de profondément intelligent. Il livre des analyses qui sont extrêmement sagaces et qu'il vaut la peine d'écouter. Maintenant, même chose pour Dominique de Villepin, qui a quand même pris des positions, notamment autour de la Palestine, qui méritait d'exister ô combien dans l'espace médiatique. Maintenant, de là à donner le bon Dieu sans confession aux deux intéressés, et notamment parce que dans leur démarche, ils semblent pour l'instant, mais je ne demande encore une fois qu'à être détrompé, je me réjouirais d'avoir tort, manifester au fond toutes les scories et les maniérismes de la Ve République, alors que nous sommes déjà passés à un autre monde et que ce n'est pas avec les mêmes structures, les mêmes ficelles et les mêmes profils de personnalité de gens aussi intelligents soient-ils que nous arriverons à passer l'épaule. Alors on y associe également des personnalités comme Idriss Aberkane. Alors je redis toute l'admiration que j'ai pour Idriss, que je tiens pour être vraiment un des grands grands penseurs de notre époque, notamment du fait qu'il a 3 doctorats dans 3 domaines différents. Alors vous avez des gens qui ont des doctorats et qui sont complètement idiots, mais lui ça n'est certainement pas son cas. Et cette ouverture vers une forme de transdisciplinarité le met, à mon sens, par ses qualités personnelles de surcroît, vraiment à l'avant-plan de la capacité de penser notre époque dans les différentes facettes dont il est question. Et il est vrai, par ailleurs, prenons l'exemple des États-Unis, une fois que vous avez Robert Kennedy Jr. à la santé, Jay Bhattacharya au National Institutes of Health, bah le paysage est quand même beaucoup plus rassurant et beaucoup plus éclairant et inspirant qu'il ne l'a été dans le passé. Donc, je ne m'oppose évidemment pas au fait que le cas échéant des personnalités exceptionnelles se regroupe et soit porté par un élan populaire pour chercher vraiment à faire le ménage dans l'État français. Pour l'instant, Idriss le prend plutôt avec humour, vous voyez, en disant « vous êtes des fous de m'imaginer dans cette position », mais je me permets de le redire, il y a derrière toute cette propagande, on pourrait dire cette promotion en faveur de Juan Branco, un ensemble d'éléments de code et de fond qui, pour l'instant, me laisse franchement dubitatif et qui me laisse plutôt penser, sans que cela soit une conviction de ma part, mais qu'on est encore dans une espèce de dialectique entre le pouvoir et la contestation, là où il s'agit de sortir de ce genre de dialectique pour entrer, dans des termes un peu complexes, je m'en excuse épistémologiquement, dans une dialogie. Il s'agit de dépasser le stade de la dialectique pour entrer dans une véritable dialogie d'évolution des structures de pouvoir et des règles du jeu politique. Juan Branco l'a dit dans une interview où, en nommant le phénomène des Gilets jaunes, il s'était dit très touché d'y trouver à la fois des anarchistes et des royalistes. Là, on va dans le sens de cette dialogie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus être dans un modèle de société où une catégorie de la population impose son idéologie et ses choix au reste. Nous allons devoir faire une co-construction qui rassemble l'immense majorité de la population autour de valeurs qui sont celles qui tiennent à cœur à la quasi-totalité des citoyens, que vous soyez anarchiste ou royaliste, et tout ce qu'il y a entre deux. En ce qui me concerne, il me reste encore à être convaincu qu'une personnalité comme Juan Branco soit la bonne pour mener ce chemin. On sait qu'il y a des personnalités très compétentes qui ont beaucoup de choses à dire et qui produisent des analyses de qualité. Leur point faible, pour l'instant, me semble être, mais je peux bien sûr me tromper, leur aptitude à collaborer. Je vois que cette aptitude est quand même très déficiente chez à peu près toutes les figures en vue, mais c'est l'avenir qui nous le dira. La bonne nouvelle, c'est que l'émergence dans le débat public d'une figure comme Juan Branco, dont je doute qu'il arrivera à rallier suffisamment d'adhésion de toute manière pour jouer sa carte personnelle, mais préfigure déjà l'après-Macron. Et il convient effectivement que nous nous mobilisions aussi pour exiger que les règles du jeu changent. Car tant qu'on est pris dans le système politique européen, français et occidental tel qu'il existe aujourd'hui, nous en reviendrons toujours à la conclusion de Coluche. Si voter pouvait changer quelque chose, ce serait interdit. Et donc, en réalité, il n'y a pas de possibilité de choisir une autre évolution pour notre société, de nous diriger dans une autre direction. Je vous remercie et vous dis à demain pour une nouvelle émission.